Agathe, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Agathe Tupulak-Kabola, qui est orthophoniste, auteure et directrice générale de la clinique ProAction. On discute ensemble des troubles de langage chez les personnes trisomiques, Agathe, aujourd'hui, et de comment on peut comprendre ces difficultés d'élocution, d'où elles viennent. Et bien sûr, on veut être concret, trouver des solutions, des stratégies, des conseils aussi pour arriver à ce qu'ils s'expriment mieux. Les types de langage chez les personnes trisomiques, est-ce que c'est récurrent, Agathe?
Bien, en fait, les deux principales caractéristiques qui vont affecter la communication chez les enfants trisomiques, c'est d'abord le retard cognitif dû à la déficience intellectuelle, puis aussi les différentes caractéristiques morphologiques et physiologiques. Par exemple, les enfants vont avoir une langue plus épaisse, le palais dans la bouche va être plus creux, plus mou. Et ça va engendrer aussi une hypotonie. Donc, l'hypotonie, c'est un manque de tonus au niveau de la langue, des muscles du visage, de la mâchoire. Et ça va faire en sorte que ça va être plus difficile pour eux de prononcer certains sons, d'articuler les mots clairement.
Est-ce que les causes viennent, je sais que c'est assez récurrent chez les personnes trisomiques, de l'hypotonie?
Tout à fait, exactement. Étant donné la structure faciale, donc c'est quelque chose qu'on voit chez tous les enfants qui ont une trisomie 21. Toutefois, c'est possible d'agir sur le problème de l'hypotonie quand on sollicite certains muscles avec des exercices particuliers.
Et ces problèmes-là qui apparaissent du point de vue de l'élocution de l'enfant, c'est dès que l'enfant commence à s'exprimer et à vouloir babiller, à vouloir parler, Agathe?
Tout à fait, exactement. L'enfant va quand même avoir un désir de communiquer avant d'exprimer ses premiers mots. Déjà, à quelques mois, on va observer du babillage, on va observer une réaction au sourire, on va observer quand même des vocalisations. Donc, l'enfant a quand même cette force-là de vouloir communiquer malgré ses difficultés. Mais les difficultés vont être vraiment observées vraiment dès quelques semaines, dès que l'enfant va vouloir commencer à communiquer avec nous.
Stéphanie, pour vous, ça a été assez tôt de constater que Lily Rose avait certains problèmes pour s'exprimer, d'élocution?
Oui, bon, déjà à 18 mois, c'est sûr qu'on constate que les premiers mots n'ont pas vraiment fait leur apparition encore. Et puis, c'est certain que ça demeure un défi là, pour Lily Rose.
Oui. C'est un défi pour elle, c'est un défi aussi pour le parent de comprendre ce que l'enfant veut dire. Et ça peut engendrer aussi différentes conséquences, Agathe?
Oui, tout à fait. Puis en fait, l'enfant qui a une trisomie a du mal à s'exprimer, mais très souvent, les enfants trisomiques vont avoir une meilleure compréhension que le vocabulaire qu'ils sont en mesure d'exprimer. Donc, quelque chose qui peut aider quand on a du mal à comprendre ce que notre enfant nous dit pour lui faire vivre quand même des succès au niveau de la communication, on peut penser à utiliser des gestes, un support visuel. Donc, parfois, les parents ont tendance à penser que ça peut nuire au développement du langage d'utiliser des gestes et puis de les inciter à moins parler. Mais au contraire, quand on associe le geste à un mot, à une expression, puis qu'on utilise la même intonation, l'enfant va être en mesure de mieux comprendre en contexte qu'est-ce que ça signifie, la consigne qu'on lui a donnée ou l'expression qu'on lui a dite.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle le système parallèle de communication?
Oui, on peut l'appeler comme ça. Puis le système parallèle, ça peut être des gestes, ça peut être aussi un programme, par exemple, je pense aux mains animées. Les mains animées, c'est un programme avec des gestes précis. Par exemple, il y a un geste pour finir, il y a un geste pour demander quand on dit donne, pour dire aide-moi. Puis on peut penser aussi à des images comme des pictogrammes visuels.
Et ça crée un succès chez l'enfant qui, bon, arrive à mieux se faire comprendre, à mieux s'exprimer et qui, ce que l'on souhaite pas, se replie sur lui-même et coupe la communication.
Exactement, parce qu'on veut qu'il conserve le désir de communiquer, puis que ça soit positif pour lui de communiquer avec son entourage.
Oui. Comment on stimule le langage, c'est-à-dire les mots, le vocabulaire? Stéphanie, Lily Rose, elle dit des mots quand même.
Elle utilise plus quelques syllabes, mais justement, on a introduit là, ce système de langage des signes avec elle. Et puis, c'est absolument merveilleux là, parce que déjà, en très, très bas âge, elle est capable de nous faire savoir des mots comme encore, terminé et tout ça. Donc, oui. Effectivement, elle les comprend, elle comprend ce qu'on dit, mais elle n'est pas capable de le mettre encore, de l'articuler. Mais,
On peut aider comment à ça, Agathe?
Oui, bien, comme Stéphanie l'a dit plus tôt, l'importance de l'intervention précoce, là, ça a fait ses preuves, c'est démontré par plusieurs recherches. Concrètement, ce que le parent peut faire, vraiment être en interaction le plus possible avec son enfant, parler avec lui lors des activités, mettre des mots sur les actions, pas nécessairement dans un contexte de jeu, mais simplement quand on est en sa présence, dire qu'est-ce qu'on est en train de faire avec lui, par exemple, quand on est en train de faire à manger ou faire les tâches ménagères, en train de se déplacer. On peut penser aussi à lire des livres. C'est un conseil qui est valable, en fait, pour tous les enfants, pour stimuler le langage, pour améliorer le vocabulaire, améliorer la formulation des phrases, utiliser des livres imagés avec des couleurs saillantes pour, en fait, attirer l'intérêt de l'enfant. On peut aussi se mettre à la hauteur de l'enfant, vraiment favoriser le face-à-face le plus possible, particulièrement pour des enfants qui ont une trisomie 21, pour leur laisser la chance de bien voir comment on place les articulateurs quand on prononce les mots, puis pour que ce soit plus facile aussi pour eux de reprendre les modèles verbaux qu'on leur donne. Puis également, très important, encourager les petits progrès. C'est sûr que ce ne sera pas toujours facile pour l'enfant de reprendre le modèle, d'imiter exactement ce qu'on a dit, mais vraiment l'encourager pour ses efforts, ça reste très important. Puis si on ne comprend pas ce qu'il veut nous dire, on peut utiliser des stratégies, par exemple, comme offrir un choix de réponse. Est-ce que tu veux tel objet ou tel objet? L'encourager à pointer s'il est capable de le faire. Pointer ce dont il est en train de parler, si c'est tangible, poser des questions fermées qui se répondent par oui ou par non. Ah, est-ce que tu voulais me dire ça? Est-ce que tu veux me parler de telle chose ou de tel ami, par exemple? Et puis, chanter des chansons avec notre enfant aussi, utiliser des comptines. Ce qui est intéressant des comptines, en fait, c'est que c'est souvent les mêmes mots, les mêmes phrases qui se répètent. Donc, ça donne à l'enfant beaucoup d'opportunités de comprendre le sens du mot dans le contexte.
Oui, et ça a quelque chose, un peu comme les livres, Agathe, de très ludique aussi. L'enfant apprend beaucoup en s'amusant. Et la chance qu'a Lily Rose, c'est d'avoir deux grands frères qui doivent la stimuler énormément sans s'en rendre compte.
Oui, tout à fait. Elle est bombardée là, de toutes parts de stimulation de deux petits garçons qui sont surexcités autour d'elle, oui.
Agathe, quand on comprend... Je reviens un petit peu là, à l'attitude à adopter quand on ne comprend pas ce que notre enfant nous dit ou qu'on détecte qu'il ne dit pas le mot comme il faut. C'est quoi l'attitude de répéter après ou de faire comme si rien n'était?
En fait, la première chose, je dirais, c'est de jamais faire semblant d'avoir compris. L'enfant va s'en rendre compte. Ça, c'est certain. D'abord, on peut le verbaliser. J'ai pas compris. Mais plutôt que de dire j'ai rien compris, répète-moi, s'il te plaît, ben, on va vraiment exprimer qu'est-ce qu'on a compris. Souvent, il y a au moins une partie, il y a quelques éléments qu'on a compris. Donc, on va dire j'ai compris ça, telle chose. Puis là, on va demander une question pour essayer de avoir plus d'informations. On peut penser au choix de réponse, comme j'ai dit tantôt, utiliser le dessin aussi. Utiliser des gestes, mais vraiment jamais faire semblant d'avoir compris ou faire comme si de rien n'était.
Oui. Et en terminant, dernière question, Agathe. En ce qui a trait à la gestion des attentes, on a envie que notre enfant apprenne rapidement, qu'il s'exprime, qu'il soit compris, qu'on le comprenne. Ça serait quoi votre conseil aux parents en ce sens?
Moi, je dirais, c'est certain d'avoir la patience. Parce qu'en fait, dès l'annonce du diagnostic, il y a un certain deuil qui est fait par les parents, le deuil de l'enfant parfait, si on veut. Puis après ça, ce ne sera pas une courbe régulière. Ça va être souvent des montagnes russes. Il va y avoir des bonnes journées, puis il va y avoir des moins bonnes journées. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'enfant, en fait, il va être en mesure de progresser, puis il va toujours continuer à s'améliorer avec un bon réseau autour de lui, avec des parents aimants et attentionnés. Puis tantôt, on parlait de la fratrie, justement, les frères et sœurs, c'est des alliés clés aussi dans la progression de l'enfant.
Et là, vous ne le voyez pas, mais je retiens mon fou rire depuis tantôt. Il y a justement le grand frère de Lily Rose, Noah, qui est en régie et qui danse. Donc, attitude, bien sûr, on voudrait bien se réveiller toujours avec un petit garçon de bonne humeur comme ça. Et je suis sûre que ça a beaucoup d'impact dans cette famille. Agathe Tupula-Kabola, évidemment, on peut consulter un orthophoniste ou une orthophoniste là, pour être mieux dirigé et avoir des conseils d'un professionnel. Je rappelle que vous êtes également auteure et directrice générale de la clinique ProAction. Merci beaucoup.
Merci. Bye. Merci beaucoup, Marianne. Au revoir.